France Info.
Centrale aussi que vous aurez ces neiges. Alors, nous avons quelques précipitations qui deviennent de moins en moins importantes et de plus en plus espacées d'ailleurs. Et puis, on a une belle amélioration qui se dessine à l'ouest avec le soleil qui s'impose de nouveau aujourd'hui. Nous avons un petit blocage quand même sur les Pyrénées. Et puis, autour de la Méditerranée, pas mal de vent, mais qui dégage le ciel, donc du soleil là aussi. Les températures, on reste dans le froid malheureusement, mais c'est d'époque. 5 degrés à Strasbourg, c'est un peu en dessous des normales de saison. Hein. 8 degrés du côté de Paris, comme à Toulouse. À Toulouse, ça fait frais. 11 degrés à peine à Marseille et Bordeaux.
Merci beaucoup Christine. Merci d'écouter France Info. Excellent début de journée. Il est 9h. Et c'est le journal de William Gacosta. Bonjour William.
Bonjour. À la une de ce 26 novembre, l'État qui dépose plainte contre Alibaba et Joom, deux plateformes où l'on a trouvé des poupées pédopornographiques en vente. À la une également, le plan de paix américain qui avance pour l'Ukraine. Donald Trump envoie son émissaire à Moscou et puis le téléphone portable ne donne pas le cancer. Conclusion des autorités sanitaires. Attention, en l'état actuel des connaissances. On y a trouvé, comme sur Shein, des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Le ministre du Commerce, Serge Papin, annonce ce matin que l'État va assigner en justice deux autres plateformes.
Il y a deux plateformes, AliExpress et Joom, qui va y avoir une plainte de la part de l'État, puisqu'elles vendent des poupées pédopornographiques aussi. C'est un combat où il faut qu'on amène une dose de protectionnisme. On ne peut pas être les seuls à ne pas se protéger un peu.
Serge Papin sur TF1 ce matin. Pour ce qui est de Chine, le site chinois comparé aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Paris, il doit décider s'il faut suspendre ou non la plateforme en France. Le gouvernement demande un blocage de 3 mois au moins pour faire le tri, Sophie Auvigne, et supprimer les produits illicites.
Depuis près de 3 semaines, le site français de Chine est déjà très allégé. Depuis la découverte de poupées pédopornographiques et d'armes de catégorie A en vente sur la plateforme. Face au scandale, le géant chinois a en effet voulu prouver sa réactivité. Il a lui-même bloqué ses vendeurs tiers et retiré toutes les catégories autres que la mode. Aujourd'hui, reste donc en vente uniquement la marque de vêtements Chine. Ça n'empêche pas la justice de décider de son côté une éventuelle suspension du site en France, temporaire, 3 mois. Elle est demandée par le gouvernement grâce à la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Le site serait alors inaccessible, bloqué par tous les fournisseurs d'accès Internet, eux aussi contraints par une assignation en tant qu'intermédiaire technique de Chine. La suspension laisserait le temps de vérifier que la plateforme est en conformité avec les règles françaises et européennes.
Et la décision de la justice n'est pas pour aujourd'hui. Merci Sophie Auvigne. Après 3 ans de guerre, se rapproche-t-on d'un accord ? Donald Trump, à l'initiative d'un plan de paix pour l'Ukraine, se dit très optimiste à l'idée de voir aboutir rapidement ces négociations. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour.
Aux États-Unis pour France Info. Alors le président ukrainien se dit prêt à aller de l'avant avec les États-Unis et Donald Trump envoie désormais son émissaire Steve Witkoff à Moscou.
Oui, un déplacement annoncé pour la semaine prochaine en Russie. Steve Witkoff, missionné donc pour discuter directement avec Poutine, tandis qu'un autre négociateur américain encore doit échanger, lui, avec le camp ukrainien. Et seulement après cela, Trump dit espérer rencontrer à son tour Zelensky et Poutine, mais uniquement lorsque cet accord sera définitif. Une façon de confirmer qu'on en est encore loin. Même si le président américain affirme qu'il ne reste que quelques points de désaccord autour de ce plan, dont il continue de revendiquer la paternité.
Ce qui est pourtant, Agathe, remis en question plus que jamais.
Oui, avec ces informations du média américain Bloomberg qui publie cette nuit des retranscriptions téléphoniques révélant que ce même Steve Witkoff, qui sera la semaine prochaine à Moscou, a donné des conseils en octobre à un conseiller de Vladimir Poutine sur la meilleure façon d'introduire auprès de Trump un plan russe, donc de règlement du conflit en Ukraine. La Maison-Blanche ne le nie pas, mais évoque une méthode standard de négociation. De quoi éclairer en tout cas un peu plus l'origine réelle de ce plan de paix qui a depuis été amendé, notamment à Genève ces derniers jours, pour tenter d'obtenir une formule davantage acceptable pour les Ukrainiens.
Merci Agathe Mahué. Les ondes des téléphones portables provoquent-elles des cancers ? Non. Conclusion d'une nouvelle évaluation de l'ANSES. Non. En l'état actuel des connaissances, Solène Lehen.
La dernière étude de l'ANSES sur un potentiel lien entre les ondes de téléphone portable et l'apparition de cancers datait d'il y a presque 10 ans. Une mise à jour des connaissances s'imposait, explique Olivier Merkel, qui a mené cette revue de la littérature scientifique.
Depuis une dizaine d'années, on a ainsi trouvé près d'un millier d'études sur les ondes radiofréquences et le cancer uniquement.
Les experts de l'agence sanitaire ont donc épluché des centaines d'études récentes et conclusions.
Lorsqu'on prend en compte l'ensemble de ces études, à la fois épidémiologiques, biologique chez l'animal et puis sur des mécanismes biologiques, eh bien, ça nous conduit à ne pas établir de lien de cause à effet entre l'exposition aux ondes et le cancer.
Alors, cette conclusion rassurante, prudence tout de même, dit l'ANSES, c'est l'état de la science et des connaissances aujourd'hui.
La question n'est pas close, loin de là, et elle mérite effectivement qu'on continue à s'y intéresser.
En attendant de nouvelles données sur le cancer, l'Agence de sécurité sanitaire appelle à un usage raisonné du téléphone, car de récentes études suggèrent un effet des ondes des téléphones sur la fertilité et le fonctionnement cérébral. Et chez les plus jeunes, on sait déjà que trop de temps sur le téléphone altère leur sommeil et favorise aussi la sédentarité.
Un mot de football avec une victoire rassurante pour l'Olympique de Marseille. Pour le compte de la Ligue des Champions, le club s'est imposé au Vélodrome hier soir contre Newcastle 2-1. Et puis, il était l'une des voix des années 80. Bébert du groupe Les Formans vient de mourir. Il avait 63 ans. Albert Kessabi, de son vrai nom, il avait vendu en 82 2 millions de disques avec son groupe. Il est 9h06 sur France Info. Restez avec nous, c'est l'heure de retrouver les informés.
Bienvenue dans Les Informés, vous nous écoutez sur France Info Radio, vous nous regardez sur France Info TV, canal 16. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
C'est parti pour une demi-heure de décryptage avec ces deux questions aujourd'hui. La droite veut faire la chasse à l'islamisme, électoralisme ou mesures applicables? Et puis pourquoi Jean-Luc Mélenchon vole-t-il au secours d'un enseignant qui dénonce des personnalités qu'il qualifie de génocidaires? Pour nous éclairer ce matin, nos informés Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique de France Info. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et Gilles Bornstein, présentateur des 4 vérités tous les matins sur France 2. Bonjour Gilles.
Bonjour Agathe.
On commence donc Renaud avec notre premier débat. La droite relance l'assaut contre l'entrisme islamiste, mais est-ce réaliste?
Alors avec d'un côté un rapport porté par 17 sénateurs du groupe LR qui publient les sénateurs du groupe LR qui publient 17 recommandations, parmi lesquelles l'interdiction du jeûne du Ramadan pour les mineurs ou l'interdiction du port du voile dans l'espace public par les fillettes et les jeunes filles de moins de 16 ans, et puis aussi une proposition de loi du président du groupe LR, Laurent Wauquiez, donc président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui lui va plus loin puisqu'il veut interdire le port du voile à toutes les jeunes filles mineures dans l'espace public. Il s'agit donc, selon la droite, de combattre l'entrisme islamiste. Alors, est-ce que la droite combat effectivement l'islamisme ou les musulmans? Y a-t-il un risque d'amalgame? La réponse, il y a quelques minutes sur ce plateau, de celui qui était votre invité, Bruno Retailleau, le président de LR.
Non, j'ai toujours distingué vraiment très, comment dirais-je, très nettement l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical, l'islam politique, qu'il faut impérativement pourchasser, il faut être intraitable, et l'islam. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais c'est aussi la liberté de conscience. Et je connais de nombreux musulmans qui exercent leur foi de façon totalement compatible avec les valeurs de la République. Et heureusement...
Alors Aurélie Herbemont, Bruno Retailleau se défend absolument de mélanger, d'entretenir la confusion entre l'islamisme et l'islam. Mais ces sénateurs qu'on fait ces propositions, certaines interpellent quand même, le fait d'interdire le jeûne au moins de 16 ans ou d'interdire le voile au moins de 16 ans. Ça pose des questions.
Ça pose effectivement des questions parce que les sénateurs LR en font une position de principe politique, parce que la vraie interrogation derrière, c'est aussi quelle serait l'applicabilité de telles mesures. Est-ce qu'on imagine demain des policiers dans la rue, dès qu'il y a une jeune fille voilée, venir leur demander quel âge vous avez? Ah ben 15 ans et demi, il faut enlever votre voile. 16 ans et 2 mois, vous pouvez le garder. Sachant que Laurent Wauquiez, c'est même une autre proposition qui est pour les moins de 18, pour les mineurs, donc jusqu'au moins de 18 ans, l'applicabilité, et puis la proposition aussi d'interdire le jeûne aux moins de 16 ans pendant le Ramadan, on a du mal aussi à voir comment concrètement ça pourrait s'appliquer. On va pas forcer des adolescents à manger s'ils sont à la cantine, par exemple. Et puis, il y a un sujet aussi derrière de... Est-ce que c'est vraiment constitutionnel? Puisque Bruno Retailleau le rappelle, effectivement, la laïcité, c'est la neutralité de l'État, le fait que l'État ne reconnaisse et ne subventionne aucun culte, mais c'est aussi et d'ailleurs Bruno Retailleau le redit bien, la liberté de conscience. Donc pratiquer sa religion, c'est une liberté qui est garantie par la Constitution. Donc tout ça donne un mélange un petit peu de est-ce bien réaliste, est-ce bien applicable. Je suis pas sûre que tout passerait la barre du Conseil constitutionnel en admettant que qu'il y ait des propositions de loi qui aillent au bout dans les différents hémicycles. Au Parlement.
Oui, d'ailleurs, Bruno Retailleau reconnaît lui-même que, par exemple, la proposition de loi de Laurent Wauquiez, alors ça, c'est à l'Assemblée, serait pas forcément constitutionnelle. Mais il dit que c'est un symbole, une mesure d'appel. Pourquoi ils font ça aujourd'hui, les sénateurs, Gilles Brandtchaan ? Pourquoi la droite se lance dans cette offensive, là ?
Je pense que, comme toujours, il y a une part de conviction et il y a une part de calcul politique. Une part de conviction, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui font vraiment le constat qu'il y a des tentatives d'entrisme de la part de gens qui ont un agenda politique pour imposer en France autre chose que des valeurs républicaines. Et c'est pas la peine de se voiler la face. On sait que ça existe. On sait que sur les terrains de foot en ce moment, dans un certain nombre de banlieues, il y a une pression assez importante sur les gamins pour qu'ils fassent la prière au moment de rentrer sur le terrain. On sait que le port de voile, les taux de port de voile chez les adolescentes, alors qu'elles aient 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc., augmentent considérablement. Donc le communautarisme en entreprise augmente considérablement, avec de plus en plus de gens qui s'organisent par religion, qui refusent la mixité. Donc il y a un certain nombre de sénateurs républicains qui pensent, à mon avis, assez sincèrement, que ça met en danger la République. Après qu'ils aient évidemment des visées politiques, à quelques mois des municipales, où on sent que ça va être un thème de campagne relativement important, c'est certain. Alors après, effectivement, la fonction d'un parlementaire n'est pas de proposer des choses qui ne sont pas applicables juridiquement. Et alors sur le jeûne, par exemple, obliger quelqu'un à manger, comme l'a dit Aurélie, là, ça me paraît... On tombe des nues quand on entend ce genre...
Un truc pareil.
On entend un truc pareil, même si les buts poursuivis ne sont pas forcément faux.
D'ailleurs, Bruno Retailleau, quand je lui demande s'ils vont forcer les jeunes à manger, il ne répond pas. Il avait l'air un peu embarrassé. Je pense qu'il ne voulait pas se désengager officiellement. Renaud Dely, est-ce qu'il y a une volonté aussi de couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron qui a voulu saisir de ces sujets dernièrement ?
On se souvient qu'en juillet dernier, il y avait eu un conseil de défense qui avait été réuni à propos de l'entrisme des frères musulmans de cette organisation islamiste-là. Un rapport avait été publié. D'ailleurs, Bruno Retailleau avait fait pression en ce sens. À l'époque, il était encore ministre de l'Intérieur. Et que Emmanuel Macron lui-même avait sollicité de la part du gouvernement Bayrou, des mesures pour combattre l'entrisme des frères musulmans dans la société française. Ça ne concernait pas le voile spécifiquement. Le problème de ces propositions de la droite, donc il y a probablement une volonté de couper l'herbe sous le pied à l'exécutif et à mettre en difficulté Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, alors que Bruno Retailleau n'est plus place Beauvau. Évidemment, c'est plus facile aujourd'hui. Mais au-delà de ça, le problème de ces propositions de la droite, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème, pour des raisons de surenchère électoraliste qu'évoquait à l'instant Gilles Brandtchaan. Et puis c'est même dangereux de présenter des mesures qu'on sait illégales. Alors c'est dangereux déjà pour ceux qui sont concernés potentiellement, parce qu'il peut, ça peut nourrir effectivement un amalgame entre musulmans et islamistes, mais au-delà de ça, c'est même dangereux pour notre constitution, pour la démocratie. Ça fragilise le Conseil constitutionnel ou l'état de droit que de dire, voilà, moi je veux interdire le jeûne des moins de 16 ans qui font le ramadan, ou je veux interdire le port du voile pour les jeunes filles mineures dans l'espace public, et la constitution, le droit me dit que c'est pas possible, donc évidemment ça produit un effet qui est délétère dans l'opinion vis-à-vis du respect de l'état de droit. Et le problème, c'est que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Ça a été illustré récemment par une enquête assez édifiante de l'Institut de sondage IFOP qui révèle effectivement que l'intégrisme progresse chez les jeunes musulmans. C'est un effet générationnel. Le port du voile chez les jeunes filles de moins de 25 ans a été multiplié par 3 en 20 ans. Aujourd'hui, 45% des jeunes musulmanes le portent. 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans considèrent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Et puis, il y a un certain nombre d'indices comme ça extrêmement inquiétants qui montrent, par exemple, près d'un musulman sur deux refuse de fait la mixité dans la vie quotidienne. Ça veut dire faire la bise à quelqu'un de l'autre sexe, se faire soigner par quelqu'un de l'autre sexe.
Ce sont des chiffres inquiétants. Et face à cela, pardon, mais on a donc, il y a que la droite qui propose des choses. Alors certes, des mesures bancales, peut-être assez caricaturales, mais il y a des propositions. La gauche...
Non, la gauche n'arrête pas. La gauche n'arrête pas de se défendre d'angélisme là-dessus et n'arrête pas de dire que oui, on est conscient du problème, etc. Mais c'est vrai qu'on a du mal à... C'est vrai que les mesures viennent rarement du côté de la gauche. Et que c'est toujours, ça vient toujours de la droite, et c'est vrai d'une partie la plus radicale de la droite. Un mot pour compléter ce que disait Renaud sur la mixité, la non-mixité qui progresse. Un maire de banlieue me disait, qui habite dans sa commune depuis très longtemps, disait qu'il y a une vingtaine d'années, des femmes qu'il connaît dans sa ville depuis toujours lui faisaient la bise et que maintenant elle change de trottoir pour ne pas avoir à le saluer. Parce que, comme elles se connaissent, ils devraient se serrer la main et qu'elles ne veulent pas être vues en train de serrer la main d'un homme. Donc oui, le phénomène existe et vous n'avez pas tort de dire que la gauche qui fait... qui en tout cas déclare ne pas être angélique là-dessus, a du mal à articuler des propositions parce qu'elle a peur d'être accusée de stigmatiser, qu'elle a peur d'être accusée d'islamophobie.
Juste un tout petit mot sur cette réaction d'une partie de la gauche en tout cas. Elle nie tellement le problème qu'on connaît le réflexe qui consiste, lorsque le message est jugé inadéquat, à essayer de, entre guillemets, tuer le messager, en tout cas décrédibiliser le messager en l'occurrence. L'Institut IFOP, qui a réalisé cette enquête, a été obligé de porter plainte contre deux députés insoumis qui l'accusaient de distiller le poison de la haine dans la société française à cause des résultats de cette enquête. Donc non seulement une large partie de la gauche nie le phénomène, mais essaye même de faire taire ceux qui simplement en parlent. Et tout le problème de la gauche, c'est qu'elle laisse le champ libre à la droite ou à l'extrême droite. Alors qu'évidemment, la gauche ne pourra pas revenir au pouvoir si elle ne présente pas aussi des solutions, évidemment, de gauche, républicaine, laïque, à des questions liées, par exemple, à l'identité, à l'islam ou à l'immigration en France.
Dans un instant, malaise dans les universités françaises, une fois de plus sur fond de conflits israélo-palestiniens. Mais tout de suite, il est 9h15 et c'est l'info en une minute avec Maureen Sunia.
Ont-ils été des espions pour le compte de la Russie? 3 personnes sont en prison. Elles viennent d'être mises en examen pour des soupçons d'espionnage et d'ingérence en France au profit de Moscou. Parmi les suspects, la fondatrice de l'association SOS Donbass, une franco-russe de 40 ans soupçonnée d'avoir approché des cadres d'entreprise pour obtenir des renseignements économiques. L'armée israélienne annonce le lancement d'une vaste opération dans le nord de la Cisjordanie, une opération qualifiée d'antiterroriste qui vise des groupes armés palestiniens. Israël occupe ce territoire depuis 1967. Le bonus auto sera maintenu et augmenté l'année prochaine jusqu'à 5 700 €. C'est ce qu'affirme ce matin le ministre de l'économie Roland Lescure. Le dispositif vise à favoriser le choix d'un véhicule propre ou peu émetteur de CO2. Le ministre qui revient par ailleurs sur cette mesure décriée, la hausse de la taxe foncière envisagée par l'exécutif. Le ministre indique que si les collectivités locales souhaitent suspendre cette hausse, le gouvernement les écoutera. Et puis place à la 455e édition du marché de Noël à Strasbourg, top départ qui sera donné avec l'illumination du sapin de Noël place Kléber à 14h. Un marché qui a attiré 3 400 000 visiteurs l'année dernière, c'était déjà un record.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Les informés avec Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique de France Info, et Gilles Bernstein, présentateur des 4 vérités sur France 2. On passe à notre deuxième débat, Renaud. Alors que le fait qu'un enseignant d'une université à Lyon ait publié une liste des génocidaires avait suscité un tollé, Jean-Luc Mélenchon vole à son secours aujourd'hui.
Le chef des Insoumis qui a effectivement manifesté hier son soutien à Julien Théry, c'est le nom de cet enseignant à l'université Lyon 2. Un enseignant éclairant pour Jean-Luc Mélenchon, qui est donc visé par un harcèlement, selon le chef des Insoumis, et qui est menacé de censure. Alors, pourquoi éclairant? Parce que, sans doute, aux yeux en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, il a donc publié sur Facebook ce message qui appelait au boycott en toutes circonstances de 20 personnalités qu'il considérait comme génocidaires. Ces 20 personnalités avaient signé une pétition le 20 septembre dernier qui appelait Emmanuel Macron à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine à la libération des otages et au démantèlement du Hamas. Y a-t-il un autre point commun entre ces 20 personnalités qui ont été donc pointées par ce message de cet universitaire? Voici ce qu'en disait hier sur l'antenne de France Info Yanis Roder, lui-même enseignant.
Quel est le lien entre ces personnes? La majorité d'entre elles sont juives de confession juive. Donc, faut arrêter de se tourner la tête dans tous les sens. Oui, ce monsieur a fait une liste principalement de juifs, comme Henri Coston, par exemple, à l'extrême droite, faisait des listes de juifs.
Alors, en l'occurrence, il y a parmi les trois quarts de ces 20 personnes sont effectivement de confession juive. Il y a des représentants, il y a le président du CRIF, le grand rabbin de France, le président du consistoire central, mais aussi d'ailleurs des artistes, des comédiens comme Yvon Attal, Charlotte Gainsbourg, Arthur, le dessinateur Johannes Farr et quelques autres. Et puis rappelons donc que cet enseignant les qualifie donc de génocidaires. Rappelons juste le terme génocidaire. Qu'est-ce que c'est qu'un génocidaire? C'est quelqu'un qui, évidemment, massacre tout ou partie d'un peuple, donc qui tue, ou qui encourage au massacre en faisant de la propagande pour justement que ces massacres se produisent. Aucun des signataires de cette tribune, qui donc visait à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine à un certain nombre de conditions, n'encourage au massacre, n'encourageait au massacre, et d'ailleurs au contraire faisait de la reconnaissance de l'État de Palestine à terme une condition du retour de la paix dans la région.
Pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend-il cette position aujourd'hui, Aurélie, alors que l'attitude de cet enseignant avait été condamnée par l'université, par des personnalités politiques ?
Parce que Jean-Luc Mélenchon, finalement, est assez cohérent avec sa ligne. Tout ce qui permet de critiquer Israël, il soutient. Donc là, cet enseignant accuse ces 20 personnalités d'être des génocidaires, donc d'être du côté d'Israël avec des raccourcis qui peuvent être pour le moins douteux.
Oui, mais là, il critique pas Israël, il critique des personnalités françaises.
Il critique des personnalités françaises. Renaud a bien fait de rappeler les conditions que mettaient ces 20 personnalités françaises, pour certaines de confession juive, pour reconnaître un État de Palestine. C'était donc la libération des otages qui étaient détenus dans les tunnels du Hamas, et le démantèlement du Hamas, organisation terroriste qui avait commis les massacres du 7 octobre, ce qui ne semble pas, sur le papier, des conditions totalement délirantes à exiger avant de reconnaître un État palestinien. Mais voilà, c'est dans la droite ligne de tout ce que défend Jean-Luc Mélenchon depuis les massacres du 7 octobre. Il estime que la réponse d'Israël mène à un génocide à Gaza, et donc tout ce qui va dans le sens de sa lecture du conflit israélo-palestinien, il soutient.
Qu'est-ce qu'il veut faire, Jean-Luc Mélenchon, Gilles Bernstein? Il veut réveiller ses soutiens parce que ce créneau de Gaza lui a porté chance pendant les européennes?
Jean-Luc Mélenchon veut, depuis le début du conflit, être celui qui défend la cause palestinienne plus que les autres. Être celui qui est vraiment le défenseur de la cause palestinienne. Et quand les autres bougent, eh bien lui aussi doit bouger. Le président de la République a bougé, le président de la République a reconnu l'État de Palestine. Donc d'une certaine manière, il n'avait plus, Jean-Luc Mélenchon, le monopole de cette reconnaissance. Par ailleurs, il y a un cessez-le-feu à Gaza. Il n'y a plus des images ou des propos ou des témoignages de violence et de gens qui meurent à Gaza tous les jours à l'antenne. Donc c'est moins à la une de l'actualité. Donc il doit, Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons politiques et strictement politiques, remettre Gaza à l'agenda politique et redire qu'il est lui le plus grand défenseur, et c'est ce qu'il fait. Parce que tout est sidérant dans cette histoire. La déclaration de ce professeur d'université est sidérante et le soutien de Jean-Luc Mélenchon est sidérant. Pour dire les choses clairement, est-ce qu'on a le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël? Évidemment, on a le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël, c'est un droit absolu. Est-ce qu'on a le droit de critiquer ceux qui défendent l'État d'Israël? Oui, évidemment. De la même manière qu'on a le droit de critiquer ceux qui défendent Vladimir Poutine, par exemple. Pour autant, est-ce qu'on peut, comme l'a fait ce monsieur, faire des listes de gens dont la particularité est d'être juifs, essentiellement, comme l'a dit Yadis Renner, en les accusant d'être des génocidaires? Boycott absolu de génocidaires en toutes circonstances. On peut ne pas être d'accord avec Charlotte Gainsbourg et Arthur. Pour autant, est-ce que ça en fait des génocidaires? Non. Et alors là, Jean-Luc Mélenchon qui explique que traiter quelqu'un de génocidaire, c'est de la liberté d'opinion, et que protester contre ça, c'est s'en prendre à la liberté d'opinion, il n'a plus de limite dans la récupération politique qu'il veut faire du conflit à Gaza.
Renaud Delis.
Et le problème, c'est que cet enseignant, cet historien Julien Théry, c'est pas un dérapage, c'est pas un poste excessif de livrer. Il a pas livré des personnes comme ça à la vindicte sur un coup de colère. Il a un certain nombre d'écrits qui caractérisent une pensée politique. Quand on lit ce qu'écrit Julien Théry, qui est enseignant à l'université de Lyon 2, qui est très proche des Insoumis, puisqu'il collabore au Média. Le Média, c'est cet organe qui a été créé précisément par les Insoumis. Donc Jean-Luc Mélenchon connaît très bien cet historien qu'il défend. Il écrit, par exemple, dans un article récent, je le cite, les trois postulats fondamentaux du sionisme contemporain, à savoir l'existence d'une nation réunissant tous les juifs, sa vocation à édifier un état-nation et le droit de ce dernier, de cet état-nation, à un territoire en Palestine, ne sont pas défendables en dehors de partis pris idéologiques, voilà, assortis de falsifications historiques. Fin de citation.
Il veut effacer Israël de la carte.
En résumé, en tout cas, ça veut dire que le droit à l'existence d'Israël n'est pas, entre guillemets, défendable, ce sont ces termes, d'un point de vue historique ou idéologique, ça pose question. Et d'ailleurs, Julien Théry explique très longuement que l'antisémitisme de gauche n'existe pas, que c'est une fake news, qui est une manipulation néolibérale sioniste. L'antisémitisme de gauche existe depuis le 19e siècle, il y a de multiples écrits qu'il démontre, à commencer par ceux de Joseph Toussnel par exemple, comme existe évidemment, existe toujours aussi un antisémitisme d'extrême droite, un antisémitisme catholique ou un antisémitisme musulman, qui joue de ressorts différents avec toujours la même cible. Donc Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'il défend. Et tout ça s'inscrit dans un contexte bien particulier où on a vu ces derniers mois un certain nombre d'incidents antisémites se multiplier dans certaines universités, avec une bonne partie du monde universitaire qui regarde ailleurs.
Sur les déclarations de ce professeur, il va falloir que Jean-Luc Mélenchon clarifie sa pensée, parce que jusqu'à présent, ce que pensent les insoumis, peut-être à part Rima Hassan, les insoumis sont pour une solution à deux États. Et ça serait un mauvais procès que de dire qu'ils se prononcent publiquement pour la destruction de l'État d'Israël. Ils sont pour une solution à deux États, la coexistence d'un État palestinien et d'un État israélien. Si désormais Jean-Luc Mélenchon soutient de telles déclarations dont le but effectivement est de dire que la création de l'État et l'existence de l'État d'Israël est illégitime, c'est un changement dans sa doctrine politique. Alors il n'a pas soutenu ces propos-là. Il a soutenu
un homme qui tient ces propos-là et qui nie l'antisémitisme.
Et qui nie l'antisémitisme. Mais
de gauche,
c'est
oui,
vrai que ces déclarations vont bien au-delà de la doxa habituelle des insoumis sur le conflit.
Aurélie Herbemont, est-ce qu'il y a un malaise profond dans les universités qui ne s'est pas réglé ? C'est pas la première fois qu'il y a un conflit sur fond de guerre à Gaza ?
Ah non, c'est pas du tout la première fois. Il y a donc cette nouvelle illustration. Et puis, dans la même université, c'est le cours d'un enseignant qui avait été interrompu parce qu'il était traité, je cite, de sioniste. Donc c'est pas du tout la première fois. D'ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur a voulu lancer une étude via le CVPOF et l'Institut de sondage IFOP pour essayer de mesurer l'antisémitisme dans les universités françaises, essayer de quantifier le phénomène, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, et ça s'est évidemment beaucoup accentué depuis les massacres du 7 octobre. Sauf que des responsables d'université ont décidé qu'ils n'allaient pas soumettre ce questionnaire à leurs enseignants, parce qu'ils trouvent que les questions sont gênantes. Il y a notamment des questions où on vous demande aussi votre avis sur le conflit israélo-palestinien, est-ce que vous avez une proximité avec un parti politique ou un autre, est-ce que vous avez une religion. Donc une partie des universités françaises refusent même de soumettre ce questionnaire à leurs enseignants. Donc le thermomètre, en fait, on ne l'a pas vraiment encore pour mesurer le phénomène. Alors est-ce que le thermomètre proposé par l'IFOP et le CVPOF était le bon ? On peut éventuellement en débattre, mais pour l'instant c'est très difficile à quantifier ce sujet de l'antisémitisme dans les universités françaises.
Il y a le ministre, il y a les universités.
Cette réaction qu'évoque Aurélie Herbemont est très significative aussi. Elle renvoie toujours au même réflexe, c'est-à-dire quand le message n'est pas justifiable, n'est pas défendable, gêne quand la réalité est sale, on essaye de remettre en cause le messager. Donc en l'occurrence, on peut discuter des méthodologies de cette enquête, qui est d'ailleurs, vous l'aviez dit, qui est quand même encadrée par le CVPOF. Et puis il faut rappeler que ce questionnaire, il est totalement libre, c'est-à-dire qu'on peut répondre
et
ou
anonyme.
Pas, anonyme, libre, etc. Mais effectivement, la plupart des présidents d'université ont choisi de ne pas le diffuser. On sait qu'il y a une foultitude d'incidents antisémites dans de nombreuses universités ces derniers mois. Et puis en revanche, il y a des cas contraires qu'il faut juste signaler, c'est-à-dire qu'il y a aussi des actions qui sont possibles. C'est le cas à Sciences Po Paris, par exemple, qui avait subi des incidents antisémites pendant plusieurs mois et qui depuis 18 mois a sévi de façon assez efficace.
Merci Gilles Bernstein, les 4 vérités tous les matins sur France 2. Merci Aurélie Herbemont du service politique. Merci Renaud. Et
merci,
vous retrouvez les informés ce soir à 20h.
La Banque Postale accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Poisson Packaging, spécialisée dans les emballages recyclables, a intégré la RSE dès 1995. Avec cette démarche, elle a redressé l'entreprise, désormais leader sur son marché. Et aujourd'hui, pour atteindre son engagement à être zéro émission nette en 2028, le groupe s'appuie sur la Banque Postale pour le financement d'une plateforme logistique destinée à optimiser ses flux de transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur banquepostale.fr/transition-écologique.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
La météo, Christine Peña, on regarde à l'ouest si on fait du soleil.
Mais oui, si vous êtes à l'ouest, point de vue géographie, bien sûr.
Parce qu'il faut rester concentré.
Nous aurons du soleil qui va s'imposer, effectivement. Une petite accalmie, en fait, qui se dessine depuis la Normandie jusque dans les Landes. Sur les Pyrénées, nous avons un petit blocage nuageux avec encore un peu de pluie et de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Et puis autour de la Méditerranée, pas mal de vent qui dégage le ciel, là aussi, du soleil. En revanche, c'est vrai que depuis l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est, là c'est très nuageux avec encore quelques pluies qui circulent et qui se transforment en neige à partir de 400 mètres d'altitude, à très basse altitude. On reste dans le froid, 5 degrés cet après-midi, pas plus, à Strasbourg, 8 à Paris comme à Toulouse, à Tours et à Montélimar, jusqu'à 11 à Bordeaux et Marseille.
Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info, je vous laisse avec Hercine Lebovitch jusqu'à midi. Bonjour Hercine.
Bonjour Agathe, bonjour à tous. La Russie acceptera-t-elle une fin de guerre qui ne soit pas une capitulation de l'Ukraine? Les rencontres diplomatiques continuent, USA-Russie la semaine prochaine, mais pendant ce temps, la guerre continue aussi sur le terrain militaire.